VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Mali, nouvelle violence à l'approche des élections présidentielles. Au moins 3 civils peuls ont été tués dans la région de Mopti, dans le centre du pays, mercredi, lors d'une attaque attribuée à des chasseurs traditionnels, selon des sources associatives et sécuritaires. Les chasseurs d'Ozo ont encerclé le village de Somena et ils ont égorgé tous les hommes avant de les jeter dans un puits, a déclaré Abdoulaziz Diallo, président de la principale association Peul du pays. Les Peul dénoncent régulièrement des exactions à leur encontre de la part de ces chasseurs armés au nom de la lutte contre les djihadistes. Ils accusent l'armée et les autorités maliennes de passivité, voire même de complicité face à ces agissements. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour la présidentielle. Les Maliens peuvent soit reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013 après l'intervention internationale contre les djihadistes, soit accorder leur faveur à un de ses 23 concurrents, dont le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard. Puis, il y aura, si nécessaire, un second tour le 12 août. Mali toujours, l'Union européenne a décidé de financer la construction d'un nouveau quartier général pour la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré, région de Mopti, dans le centre du pays. C'est ce qu'a annoncé mercredi la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Les détails avec Ikia Badou.
L'ancien QG de cette force multinationale avait été détruit lors d'une attaque djihadiste fin juin qui avait fait 3 morts. Lancée en 2017, la force conjointe rassemble 5000 hommes répartis en 7 bataillons, 2 pour le Mali, le Niger et 1 pour le Tchad. Le Burkina Faso et la Mauritanie restent chacun sous leur uniforme national. Les 414 millions d'euros promis à la force lors d'une conférence internationale des donateurs organisée à Bruxelles le 23 février tarde à se matérialiser. Néanmoins, la force conjointe du G5 Sahel entend bien garantir la sécurité, le développement de la région, qui est également un investissement dans notre sécurité, a dit Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne. La reconstitution du quartier général de Sévaré confirme l'engagement déterminé de l'Europe aux côtés des pays du G5 pour permettre aux institutions de contrôler pleinement leur territoire et de lutter contre le terrorisme et les trafics d'êtres humains, d'armes et de drogue, a expliqué Madame Mogherini. L'Union européenne a accordé un soutien financier de 100 millions d'euros à la force conjointe G5 Sahel.
Au Niger, remise en liberté des activistes de la société civile condamnés à une peine de 3 mois de prison avec sursis pour provocation d'attroupement non armé lors des manifestations de protestation contre la loi des finances 2018. Les ex-détenus se disent tous déterminés à continuer la lutte. Au micro d'Abdoul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey, écoutons Ali Idrissa, un de ces activistes.
C'est sûr que nous n'allions pas nous arrêter à ce niveau. Et la lutte ne fait que commencer. D'abord, par rapport à ce qu'on dénonçait, ce pourquoi ils nous ont arrêtés, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, le népotisme, et qui est allé plus loin aujourd'hui. Le monsieur n'a même plus confiance en son entourage. Il prend son fils pour mettre dans les affaires de l'État. C'est tout ça là que nous allons redoubler d'efforts pour combattre. Nous n'allons ni faiblir, ni cesser. Nous avions même laissé une partie de nos affaires en prison pour y retourner quand ils veulent, selon leur agenda de règlement de compte.
Ali Idrissa, un militant de la société civile au Niger. Conflit au Soudan du Sud maintenant. Le gouvernement et les rebelles sud-soudanais ont signé hier à Khartoum un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le document signé porte sur toutes les questions relatives à la période de transition et sur le partage du pouvoir. Salva Kiir restera le président du Soudan du Sud et Riek Machar sera le vice-président. Il y aura 4 autres vice-présidents répartis parmi les autres groupes politiques. Le diplomate soudanais a indiqué que la question de partage du pouvoir au niveau des régions et des départements est encore en discussion. Selon le texte adopté, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar. Le reste représentant les autres groupes. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a également annoncé qu'une commission indépendante se chargerait de décider du nombre de provinces du Soudan du Sud. Il précise aussi que l'accord définitif doit être signé le 5 août 2018.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, une épidémie de choléra a fait 9 morts selon les statistiques du ministère de la Santé publique. 3 régions du pays sont concernées par l'épidémie, le nord, le littoral et le centre, y compris Yaoundé, la capitale. Au total, 109 cas suspects ont confirmé de choléra ont été enregistrés dans les centres hospitaliers du pays. Résultat, début de panique à Yaoundé, les autorités sanitaires sont en état d'alerte, nous dit notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap.
L'hôpital du district de la Cité Verte, l'un des quartiers de Yaoundé, a reçu 5 cas suspects de choléra. 2 ont été confirmés par le personnel médical. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, y a prescrit une prise en charge méticuleuse des malades et éviter toute nouvelle contamination.
C'est très important que l'accueil soit rapide et que le circuit soit isolé du reste du circuit de l'hôpital pour éviter la contagion.
Dans 5 autres centres hospitaliers de la capitale du Cameroun, 15 patients suspects sont actuellement en isolement. Des statistiques qui inquiètent certains habitants de Yaoundé, une ville réputée insalubre.
Moi, je sors le matin, je laisse mon fils à la maison, donc j'ai peur qu'à mon absence, il peut faire un bobo derrière moi. Parce que dans les quartiers, surtout dans mon quartier à Damas, il y a des poubelles partout.
C'est pas évident avec la conjoncture au pays de pouvoir s'offrir un plat dans un endroit bien soigné. Je vais m'acheter un antibactérien.
Face à la multiplication des cas de choléra, le ministère de la Santé publique a mis tous les hôpitaux en état d'alerte. Docteur Alain Bala Etundi, directeur de la maladie au ministère de la Santé publique.
Les examens sont gratuits. Le plus important, c'est que dans votre domicile, autour de vous, on doit venir stériliser, mener les mesures de désinfection. Après la sortie, le malade est guéri. Maintenant, il faut s'assurer que le malade va diffuser les messages, va continuer à sensibiliser autour de lui et surtout va garder les bonnes habitudes.
La surveillance des nouveaux cas de choléra dans les 3 régions en épidémie s'est accrue depuis quelques jours. Les consignes sont désormais claires dans les hôpitaux de Yaoundé en cas de diarrhée. Docteur Charlotte Moussi, déléguée régionale de la santé pour la région du centre.
Des cas de diarrhée avec ou sans vomissement qui arrivent dans une formation sanitaire est considéré comme un cas suspect. Ce cas suspect-là suit un circuit tout à fait particulier où nous allons renforcer les mesures d'hygiène pour la décontamination. Puis il y a une salle d'isolement où ils vont donc recevoir les soins par rapport à leur tableau de déshydratation.
L'épidémie de choléra actuelle au Cameroun a été déclarée dans la région du Nord où elle a déjà fait 8 morts sur 58 cas suspects, selon le ministère camerounais de la Santé publique. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Santé en Afrique toujours. Au Tchad, le nombre des enfants tchadiens souffrant de malnutrition sévère a atteint un niveau alarmant dans les établissements hospitaliers de N'Djamena, selon l'ONG Alima, Alliance pour l'Action Médicale Internationale. Alima exhorte en conséquence tous les acteurs, y compris le gouvernement et les bailleurs de fonds, à se mobiliser rapidement pour soutenir les activités de prévention et la réponse médicale d'urgence. Actualité aux États-Unis pour terminer, report à l'année prochaine du 2e sommet que le président américain Donald Trump voulait avoir avec son homologue russe Vladimir Poutine cet automne à Washington. La Maison-Blanche explique que ce sommet n'aura pas lieu en 2018, jugeant qu'il devrait se dérouler une fois terminée l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Précision de Nicolas Pineau.
C'est John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, qui a fait cette annonce aux journalistes. Le président pense que la prochaine rencontre bilatérale avec le président Poutine devrait avoir lieu une fois que la chasse aux sorcières sur la Russie sera terminée. Nous avons donc décidé qu'elle aurait lieu l'année prochaine. Monsieur Bolton faisait référence au procureur spécial qui enquête sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. De son côté, le secrétaire d'État américain a tenté de rassurer les sénateurs lors d'une audition au Congrès. Mike Pompeo a lu une déclaration sur la Crimée dans laquelle les États-Unis réaffirment solennellement leur refus de reconnaître l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie, c'était en 2014. La commission cherchait à entendre le chef de la diplomatie américaine pour mesurer la fermeté et la cohérence de la diplomatie américaine face à Moscou lors du sommet d'Helsinki.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.